Bah écoutez, je vais démarrer, je vais démarrer. Alors, je vais pas vous saluer parce que je l'ai fait tout à l'heure. J'ai juste complété ma présentation pour ceux que j'ai pas vus quand j'étais de passage il y a 3 ans maintenant. C'est ça? 3 ans. Alors donc, je m'appelle Philippe Gonigam et donc j'ai d'abord un parcours d'athlète. J'ai été donc international en athlétisme sur la discipline du 400 mètres haies. Donc dans les années 85 à 90. J'ai un très bon souvenir en 86 à Aix-les-Bains.
Ah oui.
Et donc, ensuite, j'ai mené une reconversion qui m'a amené à des activités pendant une dizaine d'années plutôt dans le monde de l'entreprise. Et puis, je suis revenu au sport, donc à la fédération. Je suis devenu DTN adjoint. Et donc, j'ai pris la direction d'élite, donc direction de l'équipe de France sur la préparation des Jeux. Alors, pour vous dire déjà que la vie est bien faite parce que. Sur mon parcours d'athlète, j'ai fait des Coupes d'Europe, je ne sais pas, d'Europe, championnat du monde, mais je n'ai pas fait les Jeux Olympiques. Donc en 88, et j'ai tout fait, mais en deux mots. Et puis ça n'a pas passé, en fait. Ça n'a pas passé, puis j'arrivais plus à me projeter sur 4 ans supplémentaires. Je commençais à avoir des points d'usure. Et donc voilà, finalement, quand on reprend un peu le parcours sportif, on se dit, oh, c'est dommage, quoi, c'est vraiment dommage. Puis finalement, c'est revenu comme un boomerang, mais peut-être dans une autre position. En tous les cas, c'est plus facile de voir les gens faire du 400 mètres haies que de le faire soi-même, en fait. Mais on m'avait pas prévenu avant. Donc, j'ai vraiment vécu un beau moment dans ce contexte-là, puisque j'ai eu la charge également de la création de la ligue professionnelle. On a parlé d'argent tout à l'heure. Alors, quand on parle de ligue professionnelle en athlétisme, la vocation, c'est pas de les payer, c'est qu'ils aient un statut. Donc concrètement, quand on est même en équipe de France, on est rattaché à son club par une licence et on est protégé par sa licence. Ça veut dire que globalement, un accident du travail, c'est de la science-fiction, un arrêt de maladie, ça n'existe pas. Et puis, même la maternité n'est pas envisagée quand on est simplement licencié d'un club. Et donc l'idée a été réellement d'installer le statut, on va dire quelque chose de plus sécurisant pour les parcours des sportifs de haut niveau. Et cette mission, je l'ai continuée. Et puis aujourd'hui, comme je l'ai été encore il y a 3 ans, je suis président de l'Union nationale des sportifs de haut niveau, qui est un syndicat. Bien évidemment qu'on n'a pas l'intention de faire une grève en 2024. Néanmoins, l'idée est d'utiliser, enfin, en tous les cas, l'opportunité de 2024 pour faire avancer les choses. Donc c'est vrai que cette année, on a vraiment été préoccupé par les problématiques de retraite. Donc on a participé au débat des réformes de retraite, parce que c'est important. Vous savez, il y a des carrières qui sont de plus en plus longues. Et donc, quand on voit un peu le résultat au bout, on se rend compte qu'il y a peu de sportifs qui peuvent prétendre un jour à avoir leur retraite à taux plein. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler dans l'évolution du statut par rapport à cette mission-là, et également dans la protection. Donc la protection, on y englobe la formation, parce qu'il y a ces problématiques de reconversion, mais également. On est sur des travaux de recherche, notamment en matière d'évaluation de prévention des risques. L'activité sportive est une activité qui expose. On a parlé un peu d'excès tout à l'heure, d'excès de pratique. Et donc, autant dans le monde de l'entreprise, c'est encadré. Enfin, en tous les cas, ça existe. Cet encadrement est sur la logique de prévention de risque. Autant dans le domaine du sport. Alors, dans le rugby, ça a évolué, évidemment. Mais dans d'autres disciplines, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, j'ai un travail de cette nature que j'avais expliqué il y a 3 ans. Et puis je suis venu ici pour découvrir ce que c'était une pastorale du sport, parce que on a eu un changement de vie, je dis mon épouse et moi, et qui donc aujourd'hui elle est expert comptable et elle travaille aujourd'hui à l'évêché à Metz. Et moi je suis venu en éclaireur, en fait. Je suis venu ici pour comprendre comment ça fonctionnait. Une pastorale du sport, je trouvais ça intéressant. Et quand je suis arrivé ici, j'avais compris que soit tu es perdu, soit tu as un rendez-vous. Et en fait, je pense que j'avais un rendez-vous quand je suis arrivé ici. Et donc c'était entre le stage. Le séminaire et puis la cure. Quand vous arrivez ici, je vais vous dire, ça fait quand même un petit peu de bien de prendre du recul. Et donc, j'ai écouté, donc j'ai eu la chance de pouvoir témoigner, de raconter un peu mon parcours. Ça fait toujours du bien de raconter et puis de voir que peut-être que ça fait parler. En tous les cas, ce qui est très étonnant, vous voyez, je suis là, j'avais toujours autant de cheveux. Comme Jorg, c'est ça?
Ah oui, pas tout à fait, oui, c'est
Et
vrai.
donc, en fait, en 2020, donc, Monseigneur Laglaize, qui était évêque du diocèse de Metz, me sollicite par rapport à mon parcours, parce qu'il y a le marathon de Metz. Et il y avait une conférence de presse à la cathédrale de Metz pour évoquer le marathon. Et ils me disent, bah, mon épouse, ton mari, il a fait de l'athlé, ça serait bien qu'on puisse discuter. Parce que, voilà. Et donc, je suis embarqué dans l'histoire d'un marathon qui ne se fera jamais, puisqu'il va y avoir le Covid. Mais néanmoins, ça m'a permis d'être en lien avec l'évêque, lui expliquer, on va dire, tout ce que moi je pense par rapport au sport et aux valeurs que peuvent porter un certain parcours. Puis voilà. Et donc, finalement, je vais arriver ici. Et après, ça va durer 3 ans avec l'histoire du Covid. Et puis, la succession d'évêques à Metz, puisque donc Monseigneur Laglaize va se retirer. Il va y avoir donc Monseigneur Villemain qui va prendre la main de façon intérimaire. Et enfin, donc Philippe Ballot qui va arriver, et donc qui est aujourd'hui l'évêque, et avec lequel donc on a continué le projet. Et puis tout d'un coup, je vais me retrouver référent des Jeux Olympiques sur le diocèse de Metz, et ensuite nommé délégué épiscopal. Alors, il n'y a pas de épiscopal. Mais bon, ça repousse, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, voilà, ça s'est fait comme ça, et je suis toujours étonné de me retrouver dans ce contexte. Mais en tous les cas, j'ai bien suivi, j'ai vraiment été partenaire de la démarche, mais globalement, je n'ai pas fait grand-chose. Et donc, néanmoins, quand on pose le projet de la pastorale du sport en Moselle, eh bien, on s'est d'abord posé sur ce qui était proposé, je dirais, à l'échelon national. Il y a eu ce mouvement Holy Games qui a été mis en place donc, en mars 2023, qui a été lancé en 2023 dans le contexte des Jeux. Donc, clairement, je suis parti de ça, qui correspond aux pôles qui ont été proposés, la rencontre, la formation, la mission, la sanctification. Et je me suis dit, bah, c'est probablement par là qu'on va rentrer. Mais l'idée, évidemment, c'est d'aller au-delà de 2024. Mais quoi qu'il en soit, pour 2023, bah, je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée, un bon prétexte. Et donc, c'est comme ça que j'ai, on va dire, rédigé le projet de développement, d'installation de la pastorale du sport en Moselle. Alors, vous voyez, dans la rencontre, on parle de solidarité, de la qualité, de handicap, fraternité, etc. Bon, vous connaissez l'ensemble de ces mots. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est juste vous montrer que sur ces quelques mots, ce qui a été mis en place, donc, puisque j'ai été nommé le 1er avril, c'est une date que je n'oublierai pas. Vous avez fait le lien, c'est très bien. On a commencé par le handicap et je crois, Pascal, que tu vas montrer une vidéo de ce que ça a donné sur le terrain. En tous les cas, donc, on a mis en place d'abord une première opération sport pour tous et avec tous. L'idée, c'était de travailler avec des jeunes de la CE, de telle façon à les sensibiliser à la problématique du handicap et leur faire découvrir les pratiques de parasport de façon globale, pas que le basket, mais toutes les disciplines qui existaient. Ça m'a permis de créer des liens avec le comité départemental, on va dire, handisport. Et à partir de cette initiation et formation, ces gamins ont été mis en situation d'animateurs et donc ont organisé des journées d'accueil de publics handicapés, mais handicap pas uniquement en moteur, enfin handicap pour des personnes qui étaient sourdes, des personnes qui avaient des problèmes d'ordre psychologique, etc. Et donc, on a mis en place des journées donc, qui ont permis de vraiment mélanger et on dire, vivre de grands moments où l'inclusion a été un peu la thématique, on va dire, de base, mais où on a passé des belles journées sportives. Sur les journées diocésaines, on a travaillé en fait avec comme support un film, toujours debout. L'athlète, plutôt le sportif que vous voyez de dos, c'est un ancien joueur du FC Metz qui était au centre de formation, qui aurait logiquement dû rentrer dans l'équipe professionnelle. Et en fait, il va être victime d'un accident de la route en rentrant de l'entraînement. Et il va se retrouver donc tétraplégique. Alors pour vous dire qu'il n'a pas intégré tout de suite, parce que le soir, donc, il est dans le coma, il se réveille, et la première chose à laquelle il pense, il dit, j'espère que je pourrai faire le match du week-end prochain. Donc il était encore dans l'idée de pouvoir récupérer, et il va comprendre qu'il est tétraplégique, et il va transformer, je veux dire, ce drame en quelque chose de super beau, puisqu'il va devenir champion paralympique de tennis de table. Et c'est un beau parcours qui nous a amené donc à pouvoir donc déjà comprendre le cheminement, avoir des messages forts. Pour l'ensemble des ALP de Moselle, de vivre la même chose qu'on a fait avec les jeunes, de découvrir des activités de parasport et de comprendre les difficultés que peut avoir quelqu'un qui se retrouve en chaise roulante pour se déplacer avec les obstacles, de découvrir comment un aveugle, quelqu'un qui a des problèmes de vue, comment il peut se déplacer et comment il doit éviter les obstacles, etc. Donc bref, des sensibilisations à ça. Et donc ça a été des belles journées de partage. Et donc ça a vraiment plu. Mais c'est réellement sous le thème de la pratique sportive ou de se mettre en mouvement. Voilà. Donc sur la partie handicap, voilà comment on a extrait enfin, ce qu'on pouvait faire sur le département avec les moyens qu'on avait et le temps qu'on avait. Ensuite, on a travaillé sur des logiques plutôt de... Alors, double objectif, c'est d'expliquer que le sport c'est bien, que les pratiques sportives c'est essentiel, qu'il faut pouvoir bouger, que l'activité régulière c'est vachement important, parce qu'aujourd'hui on est vraiment face à une problématique de sédentarité. Enfin, là je parle surtout des gamins avec les écrans, etc. Donc l'idée c'est, en ce qui me concerne, je fais la tournée des écoles et j'explique plus ou moins bien ou brillamment des fois que le sport c'est sympa et que l'activité ben, ça avait un sens. Et donc, en même temps, j'explique que le premier frein pour certains gamins de se mettre en activité, c'est le problème économique. Et donc, symboliquement, je leur ai dit, ça serait bien que vous puissiez partager vos baskets. Et je vous assure que les enfants que j'ai rencontrés, ils ont tous 2, 3, 4 paires de baskets. Et ensuite, il y a des modèles millésimés. Les chaussures de l'an dernier ne sont pas les chaussures de l'année prochaine. Enfin, et donc, j'ai fait une collecte de baskets dans ce sens-là, en leur demandant d'écrire un message en tant que donateur à celui qui va en bénéficier, de telle façon à les encourager et à inciter à porter les baskets pour plutôt faire du sport que, je dirais, que sur une préoccupation esthétique. Alors ça fonctionne super bien, donc on est en train de développer ça et c'est en train de monter en puissance sur des événements comme que vous voyez là, c'est un village de 700 personnes, on en a récolté 127. Basket. Je leur demande comme de nouer la gauche avec la droite pour pas qu'elles se perdent. En tous les cas, on est bien organisé et je m'appuie sur Caritas Moselle pour la distribution. Donc pour vous dire que j'avais compris ce que c'était la sous-traitance quand je suis passé d'athlète à entraîneur. Et voilà, donc c'est une vraie dynamique qui est en place et je vous dis, c'est bien accueilli autant par... les établissements d'enseignement catholique, que les établissements traditionnels, que les municipalités, que le mouvement sportif. J'étais dans une mairie avant-hier. Ça passe très bien. Ensuite, donc sur la partie éducation, je travaille sur des conférences, souvent sur l'histoire, on va dire le lien entre l'Église et le sport. Et là aussi, je suis assez surpris de l'attention, parce que vous aviez évoqué tout à l'heure. Le fait d'évoquer la foi, etc., c'est pas simple. C'est pas simple. Je vais vous dire, j'étais presque fâché tout à l'heure quand j'ai vu Robert Pires intervenir sur sa foi. Robert Pires, vous savez qu'à Metz, il y a de très grands champions. D'ailleurs, il doit y avoir un Nîmes. Enfin, en tous les cas, Robert Pires, je le connais. Il est un tout petit peu plus, enfin, il est plus jeune que moi, mais on se connaît. Et à aucun moment, j'étais en mesure de m'imaginer qu'il avait la foi. Et on n'en a jamais parlé. Ensuite, Katie, qui est présente ici, c'est une fille que je connais depuis quasiment une éternité, puisque donc la première rencontre, ça devait être en 79, 1979, et on n'a jamais évoqué tout ça. Donc on se retrouve ici de façon surprenante, parce que malgré tout, il y a d'une part la pudeur, on n'évoque pas ça comme ça, et puis il y a le problème de laïcité. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque un handicap, enfin, en tous les cas, quelque chose qui nous bride parce que c'est pas possible que ça d'arriver. Voilà, en tous les cas, je découvre et rappelez-vous, il y a 3 ans, quand il y avait Joël qui était présent, eh bien, j'ai des athlètes que j'ai encadrés qui ont témoigné et j'avais vraiment, j'étais loin de penser qu'ils avaient la foi et que ça faisait partie d'eux. Donc voilà, donc je pense qu'on a à se décomplexer, qu'on a un effort à faire, et puis quelque part d'annoncer, ou en tous les cas de pouvoir l'évoquer, bon, c'est pas un mal, enfin, c'est pas un mal, et je crois même que ça peut être un bien. Donc les conférences, ça fonctionne super bien. J'en ai fait une dizaine là, et donc je commence à être rodé. Alors René, vous évoquiez le fait de rabâcher. Des fois, je me demande si je rabâche, Mais à chaque fois, quand je vois les personnes en face, je vois que c'est une information nouvelle et ça me fait du bien et ça me nourrit. Et puis, dans les établissements d'enseignement catholique, je travaille sur l'incitation à la labellisation Génération 2024. Et ça m'amène à raconter, enfin, en tous les cas, de pouvoir évoquer non seulement le sport, mais le rattacher à la foi. Voilà.
C'est quoi la belle génération?
Ah ben c'est le comité olympique, enfin le comité d'organisation des Jeux, qui a mis en place un label pour les établissements, que ce soit du premier ou du second degré. Et selon un certain cahier des charges, s'ils le respectent, ils sont labellisés et ils ont accès, dans le cadre notamment du dispositif Terre de Jeux qui est développé sur l'ensemble des communes, départements, ça leur permet d'accéder à certaines choses, comme par exemple l'accès à certains matchs de préparation ou à des rencontres avec des équipes étrangères en préparation des Jeux chez nous.
D'accord.
Voilà. Ensuite, sur le carême à domicile, donc c'est quelque chose de récurrent sur notre diocèse. Cette année, on le rédige. Donc ça va s'appeler, ça sera sur la thématique du sport, carême à domicile en mouvement. Donc il est rédigé avec, on va dire, une logique de rencontre. Il y a cinq rencontres qui vont être organisées, donc qui sont successives, avec, on va dire, une montée en puissance vers Pâques. Et donc, on incite, donc, à travers certains textes, à, comment dire, à mettre les gens en mouvement. Alors, évidemment, en mouvement dans les deux sens, autant au niveau de l'esprit que sur le plan physique. Et donc, ça a été dur pour moi de rédiger parce que c'est pas trop mon truc, mais bon, ça a été fait. Et en plus, je fais la première rencontre. Donc, c'était un peu dur, mais j'étais accompagné par un comité de rédaction, donc ça a été, dans la douleur, mais ça a été. Et donc, on a cinq rencontres. Et je me suis dit, bon, ça va être imprimé tout ça, je vous communiquerai peut-être les coordonnées et je pourrai vous envoyer le document terminé. Mais je me suis dit quand même que de dire, écoute, ça serait bien que tu te mettes en mouvement. Et vous savez, les carèmes à domicile, c'est plutôt des gens qui ont mon âge, hein, 60 ou plus. Et donc, je trouvais un peu gonflé de dire, et ça serait bien de leur faire la leçon en disant, il faut te mettre en mouvement, il faut bouger, hein, c'est important de bouger. Et donc, je me suis dit, ben, autant peut-être le mettre en application. Concept philosophique très profond, premier qui dit qui est. Donc, je me suis dit, avec Radio Jéricho, enfin RCF sur le plan local et puis le service com, on va mettre en place des rendez-vous de préparation des rencontres. Donc, on va faire des marches matinales avec. Chaque fois, alors un prêtre, enfin, des personnes impliquées dans l'église, un diacre, une sœur. Et donc, on va travailler sur une rencontre. La thématique, ça peut être, par exemple, j'en pense à c'est l'humilité. Eh bien, on va, à cinq reprises, enregistrer un temps où on marche, où on va faire ces 10 000 pas, et on va évoquer ce sujet, et on va extraire les meilleurs moments, de telle façon ensuite à les mettre sur un podcast, et puis surtout, pouvoir le communiquer à travers les réseaux pour que les gens qui sont impliqués dans le carême à domicile, qui l'ont et qui le pratiquent à la maison, puissent avoir des éléments d'encouragement pour se mettre en activité. On fera également, alors ça, on le fera en amont, évidemment, au niveau des enregistrements, et pendant le carême, donc je me suis engagé, donc sur les 40 jours, à avoir à chaque fois un prêtre, et on met en place une petite communauté, et on va se faire une marche tous les matins, très tôt, telle façon à pouvoir à se rencontrer, et puis utiliser l'évangile du jour et échanger, communiquer sur un temps de marche qui est des fois un vrai temps privilégié d'échange, de discussion. Voilà par rapport au carême en mouvement. Et puis vous avez vu, il y a la notion de célébration. Alors là, par contre, moi j'étais un peu en difficulté quand vous commencez à réfléchir comment on peut proposer des moments de célébration. Et en fait, donc, il y a une opportunité. Enfin, en tous les cas, j'ai pensé à un truc très simple. Dans un village chez moi en Moselle, il y a un monsieur que vous voyez qui s'appelle Joseph Wirtz, qui était donc un athlète qui était aux Jeux Olympiques en 1936 à Berlin. C'était un lanceur de marteau. Il avait le record de France, etc. Et il est décédé en 1991. Et dans notre département, on a un lanceur de marteau qui a déjà fait deux Olympiades et qui se prépare pour 2024. Et donc, on s'est organisé pour mettre en place une célébration sous, on va dire, la thématique de la mémoire, c'est faire que le souvenir de quelqu'un soit gardé. Et en fait, on s'est rapproché donc de Quentin. Il est venu à cette opération et ça nous a amené à faire une célébration super sympa. Voilà, super sympa. Où finalement, il y a eu du monde. Mais on est dans l'ambiance village, faut pas oublier. Il y a eu ensuite une procession parce qu'on allait déposer une gerbe. En tous les cas, ça a accroché. J'étais le premier étonné parce que j'imaginais pas que sur un temps comme ça, on pouvait mobiliser du monde. Et vous voyez que ça s'est bien passé. Je ne sais pas si j'ai remis des photos supplémentaires. Ah, voilà. Comment vous me trouvez?
Un peu rigide.
Voilà, vous voyez, on a distribué la flamme. Alors, on a mis en place ces bougies. Et on les a allumées donc, au fur et à mesure. Après, on a fait un petit carton que je vous ai ramené, que je vous ai distribué tout à l'heure. En tous les cas, tout le monde a joué le jeu et c'est un moment de fraternité super sympa. Et je terminerai par la notion de patronage. Alors, moi, je suis content que tout à l'heure, dans les présentations, on a parlé de patronage. Parce qu'en fait, les Jeux de 2024, à un moment, seront, je dirais, plutôt dans nos souvenirs. Et que la pastorale du sport qu'on est en train de mettre en place en Moselle n'a pas vocation à s'arrêter après les Jeux. Et en réfléchissant un petit peu, je me dis comment on va continuer l'histoire. Je pense qu'elle a bien démarré en Moselle. Il y a des actions qui sont en cours et qui fonctionnent bien. Il y en a une qui est vachement difficile à organiser. Je vous la donne comme ça, mais je ne veux pas que ça sorte de là. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a des choses qui vont rester ici. J'ai mis en place une démarche avec, vous connaissez le chemin d'humanité, ce qui se fait ici avec les parcours vitalité. Donc, je me suis proposé de promouvoir ce parcours, mais surtout d'aller, entre guillemets, le vendre, d'aller voir les prêtres, c'est un bon prétexte de les rencontrer, etc. Et puis, de leur dire, nous, on peut se mettre en base arrière sur les intercessions, comme c'est 3 semaines, donc 3 fois, enfin, trois, non, 1 semaine, 3 fois dans l'année, me dire que moi, je vais m'intercaler pour les accompagner, parce que certains veulent se remettre à faire du sport, certains ont une vraie volonté de gérer leur poids, ils ont pris du poids, etc. Et je sais qu'on peut les accompagner dans cette démarche-là. Bref, les remettre au sport. Alors, je voulais juste vous dire, c'est le truc le plus dur que je fais. C'est le truc le plus dur que je fais. Parce que, en fait, quand il me dit j'ai pas le temps, je dis moi j'ai pas le temps de prier non plus. Hein. Je dis, moi je fais du sport. Hein. Et donc, c'est là qu'on comprend que je plaisante, évidemment, et que il faut se donner le temps. Et que concrètement, quand on parle de prière ou quand on parle de sport, on est dans la même division. C'est le quotidien, la régularité, les exercices, etc. Donc on parle de la même chose. Et donc, et en plus, ça leur fait du bien. Je vous assure que quand ils se mettent en route, ça fait du bien. Sauf qu'il faut que j'arrive à être plus persuasif. Sous la menace, certains vont en faire. Mais en tous les cas, je mets en route et je me repose sur ceux qui vraiment ont bien vécu le truc pour qu'ils puissent le proposer aux autres. Voilà. Alors, je reviens au patronage. Moi, je me suis dit, mais comment on peut continuer l'histoire? Voilà, c'est en route. Et en fait, en regardant les patronages, il y a un truc qui m'a saisi. J'ai vu qu'en 1955, le mouvement représentait 800 000 licenciés. 800 000. Vous savez à peu près où on en est sur les licenciés dans les fédérations. Je vais vous donner l'athlétisme, c'est 300 000. Le rugby, c'est 300, 3 000 à peu près de licenciés. 800 000. La fédération était donc de 800 000. Les patronages, ça représentait 800 000. Alors je me suis dit, comment ils sont arrivés à ça? Et en fait, j'ai compris que ça ne démarre pas avec une fédération, ça démarre avec des paroisses. Et là, René, vous allez me suivre. Pour la fédération d'athlètes, j'ai essayé de comprendre parce que j'y ai travaillé, j'ai quand même une vision, j'étais dedans. En fait, le système qui a été mis en place de développement des pastorales, eh ben, il commence d'abord dans les paroisses, il commence à la base, il commence dans les villages, il commence dans les petites villes. Et à partir de là, la loi 1900, etc., permet de se fédérer. Et ça devient une fédération, entre guillemets, une fédération de clubs. Et ce développement-là, dans ce sens-là, il a fonctionné. À l'inverse, vous commencez par la fédé, et qui dit, il faut faire comme ça, voilà le cahier des charges pour faire un meeting, tu mets d'abord de l'argent sur la table, voilà comment ça fonctionne, voilà. Et on se rend compte que quand ça descend, il y a de la perte, il y a de la fuite, et puis les clubs se retrouvent dans des situations difficiles. Là, je ne vous parle pas des clubs, dans les sports collectifs, c'est un peu différent. Mais dans les sports individuels, d'une part, les clubs, c'est eux qui recrutent, qui détectent, qui forment. Donc, c'est eux qui encaissent la licence, et ils sont taxés pour certains à 90%, parce que ça arrive à la fédé, à la ligue et au département. Quand je dis taxé, c'est plus que l'impôt sur la fortune, hein. Non, non, mais c'est sérieux. Donc, quand on voit ce système-là, on se dit, waouh, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Deuxième problématique qui a été résolue dans le domaine du sport pro, dans les sports collectifs, c'est que les clubs, c'est eux qui détectent et qui forment. Et une fois que le jeune est détecté et formé, eh bien, il part dans un pôle. Là, je vous parle de performance. Il part dans un pôle. Et il arrive à la fédération, il arrive donc à l'INSEP. Voilà. Bon, il y a d'autres centres de préparation, mais globalement, je vous donne la direction. Et en fait, le jeune, il va se barrer. Parce qu'à un moment, le lien avec le club, il est virtuel. Il n'y a plus de lien. Et puis, concrètement, ben, on se retrouve avec le club qui le voit partir dans un autre club, UP, où il va avoir peut-être d'autres avantages. Et le club se retrouve à devoir nouveau détecter, former, il refait le boulot. Et donc, je vais vous dire, c'est pas tenable. C'est pas tenable parce que globalement, qui finance la détection, la formation sur le territoire? C'est les collectivités locales. Une mairie, un département, une région finance. Et ensuite, elle ne va pas tirer, entre guillemets, c'est pas une loi de rentabilité, mais en tout cas, l'attractivité de quelqu'un qui est compétitif, bah, ça ne fonctionnera pas, ils ne pourront pas, on va dire, l'exploiter. Et je trouve que il faut repenser au sport pro. Oui, clairement, le développement, il se fait à travers les clubs. Les clubs, c'est les centres de formation des clubs. Et quand quelqu'un va performer, eh bien, tout le long de la carrière avec les transferts vont amener une ressource au club qui aura formé. Donc, je pense qu'il faut imaginer dans les sports individuels ce retour au club. Donc, je reviens au patronage. Moi, je pense que concrètement, on a une opportunité. Parce qu'à l'origine, les patronages, enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, le rôle est quand même un rôle éducatif. L'éducation. Alors, cette éducation, elle a basculé dans l'éducation nationale. On est passé des profs de gym en profs de PS. Et on voit aujourd'hui que la problématique de l'éducation, ben, elle se pose aujourd'hui. Elle se repose de nouveau aujourd'hui. Et qu'à partir de là, si on reprend l'ADN du patronage qui est l'éducation, et qu'un des outils peut être le sport, si on se met à table, on est en capacité, je parle de patronage rénové, parce que j'ai utilisé le mot rénové à cause des jeux, la rénovation des jeux, avec quelque chose qui est super ancien, ils ont été en mesure, en 1896, de faire des jeux rénovés. Ben, je me pose la question si ce n'est peut-être pas la voie, patronage rénové, de trouver le positionnement qui est celui de l'Église, qui est clairement l'ADN de l'Église, pour remettre en place des principes d'éducation. Et donc, je l'ai évoqué donc, à la journée diocésaine, où j'ai des prêtres qui ont vraiment accroché, qui me disent, c'est bien, effectivement, et ils y sont allés. Et d'autres qui me disent, arrête tes conneries. On revient pas avec des trucs comme ça. Donc, je pense que après c'est une sensibilité. Mais en tous les cas, moi je pense que la vision du patronage rénové est une vision qui me paraît juste si elle part des paroisses et si effectivement le prêtre est au départ dans cette mouvance. Et là, on est en mesure, à mon avis, de faire de ce patronage quelque chose qui répond aux besoins local, de territoire, parce que les problématiques locales ne sont pas les mêmes en grande ville ou dans la capitale que chez moi à Metz. Voilà. Donc voilà comment je voulais terminer mon propos, en sachant évidemment que je suis à votre disposition pour échanger, pour discuter. Je dois vous dire, alors, il faut qu'on fasse une photo, un selfie, puisque c'est comme ça qu'on dit, il faut que je l'envoie à Monseigneur Ballot. Il vous passe le bonjour.
Ah oui.
Et donc, il voudrait que on se. Donc, je lui enverrai un petit message.
Oui,
Et
pas de
voilà.
problème.
Je ferai une photo avec vous parce que j'ai dit à ma femme que je serai ici pendant 2 jours et je ne voudrais pas qu'il y ait de soucis. C'est important. Et puis, ben, comme d'hab, Pascal, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai toujours plaisir à venir ici et puis plaisir à partager le parcours qui a été mené. Et je vous dis depuis le 1er avril. Donc, je me sens bien. Alors, la première fois que je suis venu ici, on avait un point commun qui était le sport. Eh bien, je pense qu'il y a des choses qui ont évolué. Voilà. Merci à vous pour votre attention.